Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode du Dernier Mot sur qu'est-ce qu'il y a dans notre bibliothèque. Du moment où on achète nos livres à celui où on les classe, découvrez nos habitudes et notre avis sur les livres, des rayons jusqu'à nos étagères. Je suis Maïli et je suis avec Céleste, Péa et Aoru. Bonne écoute! Ok, et bah pour cette première partie, on va parler de comment on organise notre bibliothèque. Qui veut commencer?
Bah je veux bien. Perso, moi j'ai classé ma bibliothèque en fonction des genres de mes livres. J'ai une partie manga, alors j'en ai pas beaucoup, j'ai surtout les Blue Lock. Ensuite, la deuxième étagère, c'est les livres que j'ai détestés et mes livres d'enfance.
Tu les mets à côté, t'es un monstre.
Bah en fait, c'est parce qu'en gros, j'ai pas encore trop classé parce que je suis en train de les récupérer petit à petit mes livres d'enfance. Parce que ma mère a eu la bonne idée de les prêter à des familles par-ci par-là et donc... Depuis 10 ans à peu près, j'en récupère de temps en temps et donc ça prend du temps. Donc j'en ai pas encore beaucoup. Ensuite, je vais avoir toute une partie spéciale, toute une étagère où tout à gauche, ça va être tout ce qui est science-fiction, post-apocalyptique. Puis ensuite, à droite, ça commence avec la fantasy. La fantasy qui est encore sur l'étage d'au-dessus, mais entièrement. Après, je vais avoir un étage avec pareil de la fantasy, mes beaux livres. Et surtout des livres que je n'ai pas forcément lus, mais en tout cas, c'est des très beaux livres. Et enfin, j'ai un dernier étage avec, pareil, des livres que je n'ai pas encore lus et des livres un peu plus, je dirais, peut-être intellectuels. Par exemple, j'ai un gros livre avec toutes les unes de journaux de l'équipe ou encore j'ai des livres plus anciens ou des livres d'ateliers d'écriture, par exemple, etc.
Bon, alors moi, du coup, ma bibliothèque, elle est organisée bizarrement. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai tous mes livres qui sont plus, pas scientifiques, mais c'est genre des biographies, des reportages, des livres aussi de l'équipe notamment. Et puis de l'autre côté, j'ai des livres, c'est tous mes récits en fait, parce que j'en ai pas accumulé tant que ça depuis que je suis arrivé à Lyon. Voilà, c'est vraiment en deux parties, puisque j'ai deux étagères.
Et vas-y, Aoru, tu peux prendre la suite.
Moi du coup, si c'est à moi, quelle bibliothèque? Parce que j'en ai plusieurs, enfin j'en ai deux en l'occurrence. Il y en a une où c'est celle où j'ai pris le plus de soin à l'étoffer, à la composer, donc peut-être que c'est la plus intéressante déjà pour commencer, où clairement elle est un peu rangée au feeling, dans le sens où il y a une partie où il y a l'esthétique qui compte, parce que j'ai toute une série de livres qui sont au demeurant très intéressants, avec des grands classiques sur Kant, Descartes, etc. Et où ils sont tous de la même série, de la même gamme, donc ils ont la même tête, mais avec des couleurs différentes, donc je les ai mis en dégradé. Elle n'est pas forcément dans l'ordre ou dans la thématique. J'en ai une autre partie où c'est des livres plus de cœur, que j'apprécie énormément, qui sont d'ailleurs pour la majorité des livres fantastiques, de grands auteurs, en tout cas de gens que je considère comme des grands auteurs, ça doit être... Majoritairement du Paolini, il y avait du Gummel et aussi en partie pas mal d'autres auteurs, genre Diana White Jones et d'autres, j'en passerai, et des meilleurs. Et enfin une dernière partie en bas où c'est plus des livres qui sont juste très beaux globalement et qui sont là pour un peu l'esthétique de la bibliothèque en général. Ça c'est un peu la bibliothèque de façade, celle qui est dans le salon, qui est à la vue de tous. Et parce que c'est celle aussi qui est facile d'accès et j'en ai une autre dans ma chambre où il y a clairement tout un... plutôt classé par genre. L'étage des BD, l'étage des mangas, tout l'étage des romans et après les étages aussi de livres scientifiques parce que j'ai pas mal de livres scientifiques de fait de mes études que j'ai accumulés avec le temps et des cartons entiers de livres d'histoire aussi, mais ça, on n'en parlera pas.
Ok, et bah moi alors, pour ma bibliothèque, c'est vraiment le bordel. J'ai beaucoup par thème, j'ai tout un étage philosophie que j'adore. Et sinon, j'ai ce que je veux lire absolument, mes préférés que j'aime de tout mon cœur. Et après, j'ai tendance à cacher ceux que j'assume pas. Genre, je les mets tout en dessous et je les tasse un peu au fond de la bibliothèque. Et je crois qu'Aoru a la même manie de faire ça.
Non, mais j'ai quelques livres où comme ma bibliothèque est profonde, je les mets derrière pour être sûr que parce qu'il faut économiser de la place et que voilà, mais j'ai pas du tout le problème de cacher les livres un peu honteux.
Oui, bien sûr, pour économiser de la place.
Moi je mets les livres un peu honteux en bas dans ceux que j'aime pas.
Ouais, puis tu les caches un peu, genre je
avec
sais que
mes livres d'enfance.
Moi je les mets pas droit, je les pousse vraiment sur le fond.
Ah non, moi je les mets droit devant par contre, genre devant ils sont tous alignés et ça peut libérer de la place derrière pour foutre des trucs derrière. Ça peut arriver d'avoir deux niveaux de livres, notamment les romans de poche. Avec la profondeur, tu peux avoir une rangée devant et une rangée derrière. Donc ça se fait. Et j'ai même la bibliothèque chez mes parents où en fait j'ai mis la bibliothèque de telle sorte à ce que tu puisses accéder des deux côtés, donc les ranger des livres des deux côtés au besoin.
Ça c'est pas mal. c'est pas mal. Sauf quand t'as genre plus de place dans ta bibliothèque, t'es obligé de mettre des bons livres derrière.
Ouais.
Ensuite, on peut enchaîner sur les types de livres. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout d'abord les formats. Il y a les formats brochés, donc c'est les beaux livres un peu à l'ancienne. Il y a les reliés, qui sont les grands pavés. Et les poches, qui sont les tout petits livres. Et on trouve beaucoup de poches, notamment pour les livres classiques, en quelque sorte, un peu plus anciens.
Alors juste pour rebondir et refaire un petit point rapidement, c'est vrai que maintenant on a tendance à mettre les brochés au-dessus des reliés au niveau qualité et niveau prestance, mais pour les vieux livres, plus les reliés qui étaient, enfin ceux qu'on a avec les couvertures en cuir, etc., c'est des reliés, pas forcément brochés. Brochés, c'est une technique qu'on utilise beaucoup plus récente, c'est vraiment, c'est un standing nouveau qui s'est créé il y a très peu de temps, il y a quelques dizaines d'années, enfin... qui commence à remonter maintenant, mais voilà. Mais les vieux livres, comme vous pouvez les imaginer, avec un haut standing en couverture en cuir, le derrière un peu dorure, etc., c'est souvent des reliés, globalement.
Sérieux ? Et du coup, c'est quoi la différence ? C'est au niveau de la façon d'agencer les pages ?
En fait, ça se joue sur comment sont agencées entre elles les pages et comment elles sont fixées entre elles. Reliés, c'est avec une reliure, donc avec un fil qui tient les pages. Qui passe dedans, soit qui passe au travers, enfin il y a différentes techniques. Broché, c'est avec des broches qui vont être plutôt soit en métal, soit qui vont tenir de manière ça beaucoup plus solide. Le côté presque agrafé, entre guillemets, pour schématiser ça de manière très large et totalement à la con, c'est genre agrafé ou passé avec un fil. Donc c'est deux techniques différentes qui changent un peu tout ça, mais on a tendance à confondre les deux ou pas bien les concevoir ou se les représenter.
Après, là, actuellement, dans l'imaginaire collectif, il y a trois sortes de gammes. On va avoir le broché, où c'est vraiment la haute gamme, où ça va être celui avec le plus de détails, où souvent, maintenant, dans les livres brochés, on va avoir une première couverture en papier, puis après, on va justement avoir en dessous un livre plus épais, je sais, avec beaucoup de dessins. Puis ensuite, il y a le relié, où c'est à peu près la même couverture, mais sans cette feuille au-dessus, donc c'est directement juste imprimé. Et ensuite, il y a le poche où c'est vraiment la version petite.
Oui, non, mais même parce que maintenant, les termes ont totalement été dévoyés.
Oui,
dans
oui
le
mais
sens
c'est
où...
juste ouais. pour revenir sur oui, comment totalement. On aborde la chose aujourd'hui.
Ouais. Parce que même sans ça, même il y en a plein qui ont abandonné les broches dans les livres brochés, ce qui est totalement aberrant, et qui, en fait, te font une reliure avec un standing supérieur. Mais globalement, c'est un peu compliqué. Plus personne ne sait trop quoi en dire, mais originellement, la différence se faisait vraiment à ce niveau-là. Les livres agrafés, c'était des brochés. Les livres avec du fil, c'était les reliés. Et après, on s'est retrouvé avec un truc avec des standings différents, des machins différents, etc. Donc, c'est juste faire un petit point pour savoir qui parle de quoi, globalement.
Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve ça dommage sur les brochés où souvent, tu as un papier de protection sur la couverture et la coutume veut qu'on n'enlève pas ce papier alors que c'est derrière ce papier que le livre est le plus beau. Et je trouve ça tellement dommage.
Bah alors, je peux comprendre. Après, souvent, il y a aussi un peu de négligence de ce qu'il y a sous cette feuille, entre guillemets. Il n'y a pas forcément toujours mis en valeur en tant que tel. Donc, ça peut se comprendre aussi dans certains cas où même c'est moins lisible ce que contient le livre. Dans le sens, le titre est moins explicite, moins gros, moins...
Ouais.
Enfin, donc c'est à double tranchant et j'avoue qu'on a perdu cette habitude de bien retravailler les couvertures sur les livres dits brochés en tout cas, où en général des fois c'est même un fond uni en dessous, pas forcément très beau. La matière est plus belle, en général c'est plus solide, mais c'est pas toujours non plus un truc extravagant quoi.
Et je trouve ça, pour moi je trouve ça vraiment dommage parce que au niveau du prix, ça grimpe tellement vite. Je sais pas vous, mais moi maintenant... Déjà, de base, je préfère les poches, mais en plus, t'as un écart de prix qui est quand même assez imposant. J'achète plus du tout de brochés, et les reliés, c'est vraiment pour les nouveautés où il n'y a pas en format poche.
Bah, en fait, oui, c'est ça. Déjà, depuis environ 10 ans, il y a eu grosse augmentation des prix des livres. Genre, j'ai acheté il n'y a pas longtemps un livre qui a été publié au Webplus en 2012, et du coup, il était au prix de 14€, et c'était un relié. Et ce prix-là, on ne le retrouve plus du tout sur les reliés. Maintenant, les reliés sont à peu près 20€. Entre 17 et 20€, et encore trouver un livre à 17€ en relié, c'est très rare. Et donc, c'est ça, en fait. Les brochés, c'est très, très beau. Il y en a vraiment, je trouve, qui valent le coup parce qu'ils sont tellement beaux que les avoir dans sa bibliothèque, c'est tellement agréable. Mais oui, il faut mettre 25, 30 euros maintenant et c'est trop cher. Et en plus, on est étudiant. Donc les poches, déjà entre les poches et le relié, je préfère limite avoir un poche parce que c'est la même chose en version plus petite pour moitié prix. Enfin, acheter un livre maintenant, c'est devenu un luxe.
Bah après, perso, j'avoue que j'ai beaucoup profité du Pass Culture pour pouvoir acheter justement des livres reliés. Donc j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Mais après, c'est vrai que voilà, je privilégie quand même généralement les poches, d'autant plus que ma littérature est très classique. Je peux facilement les trouver en format poche. Mais du coup, ouais, c'est vrai que vraiment acheter des livres, ça commence à devenir à piquer un peu. Donc faut faire gaffe, quoi.
Moi, j'ai la chance d'avoir de la famille qui lit beaucoup. Donc souvent, j'arrive à récupérer des livres à droite, à gauche, et donc à pas les payer en soi. Mais t'as quand même ce truc où tu veux un objectif de livre, tu veux des nouveautés ou des trucs, et t'es obligé de passer par l'achat. Après, petit conseil, t'as certaines librairies qui font beaucoup des livres d'occasion, et des fois, c'est si peu cher, c'est génial.
Il y en a à Lyon, en plus. Ça s'appelle Gilbert, je crois.
Il y en a plusieurs.
Gilbert-Joseph.
Ouais, c'est la plus connue, en tout cas, c'est celle que j'y vais souvent, personnellement, j'achète beaucoup mes livres là-bas.
Ou tu peux même avoir Emmaüs, ou ouais. Tu peux avoir... Enfin, il y a plein d'autres possibilités.
Bah, même si tu fais des brocantes. Hein.
Des brocantes, oui, enfin, bon, voilà, ça, c'est sûr et certain.
Le problème des brocantes, c'est que tu dois te lever tôt le matin.
Oui. Du coup, alors moi, je vais déjà passer pour le vieux de service, le Pass Culture, qu'est-ce que c'est ? Non, mais honnêtement, franchement, j'avoue que ça fout un peu les morts. J'ai jamais eu le Pass Culture, donc clairement je fais partie de ces années là qui avant que ça arrive on était genre non, j'ai loupé un an ou deux près, franchement pas
plus,
grand chose.
Je crois que je suis la deuxième année à l'avoir eu, donc c'est depuis 2003 quoi, les 2003.
Je l'ai loupé à 3 ans, wow.
Ouais, parce que franchement 300 balles pour acheter des bouquins,
Ouais bon après voilà, donc ouais hein.
Et surtout c'est passé du tout au tout hein. Ouais. C'est passé de t'as absolument rien, ouais, à clairement. T'as déjà 50 euros avant les 300 balles,
c'est incroyable.
T'as des grades.
Et même nous, hein, moi je sais que moi je l'ai loupé parce que même ceux qui n'avaient pas eu directement le Pass Culture, il y en a qui ont eu un truc genre un rattrapage sur les 2001 ou 2002, ils avaient eu un petit rattrapage, un petit bon bah vous avez un truc, donc voilà, donc bon. Et en plus, moi j'avoue que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les livres et notamment aussi le livre pour l'objet. Pour moi, l'objet livre est quand même quelque chose d'intéressant, d'important et qui a une esthétique très particulière. C'est pour ça notamment que j'aime bien les livres anciens, les livres qui sont reliés avec l'extérieur en cuir, etc. Pour moi, l'objet livre, c'est super beau, super important. J'ai fait des études d'histoire aussi, donc ça doit jouer. Mais en général, ça coûte aussi très vite très cher. Donc c'est pour ça que j'essaye aussi parfois de trouver dans des brocantes, dans des trucs comme ça, dans des tout à 2 euros, etc. Enfin, dans les boutiques à prix cassé des fois, ou avec des livres de seconde ou troisième main, et j'arrive à avoir des trucs vraiment sympas. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, ça coûte de plus en plus cher, c'est honteux, c'est horrible. Tu dois vraiment te lever à pas d'heure, ou alors passer des heures et des heures et des heures à écumer toutes les boutiques pour avoir des livres banger. J'ai des livres de ouf qui ont 300 ans, qui sont sublimes, mais où il m'a fallu, je sais pas, 6, 7, 8 heures pour le trouver. Donc
après,
c'est chaud.
Après, je crois que le prix du livre a aussi augmenté avec la Covid, parce qu'il y a eu des problèmes d'exportation de bois ou de papier.
Ouais,
donc,
non, mais il y a eu plein de problèmes avec ça, et puis après c'est resté à ce prix là parce que finalement c'est pas plus mal. Non mais c'est ça, l'inflation, bon bah on monte les prix parce qu'on veut pas diminuer nos marges, mais par contre on les rabaissera pas parce que en vrai c'est cool,
vas-y la flemme,
voilà. Puis surtout les gens ont accepté que ce soit ce prix là puis même les bouquinistes, tout ça, où tu te dis ça se trouve c'est moins cher parce que c'est des vieux bouquins, tout ça. Non,
pas du tout,
absolument pas.
D'ailleurs, petit conseil, moi j'ai par exemple énormément acheté de livres sur Vinted. Alors pour les livres hyper populaires comme, alors je prends l'exemple qu'il y avait surtout il y a 2 ans, Le Prince Cruel, alors pas forcément, mais par exemple moi j'ai acheté des Divergentes là-bas, je les ai payés à 2 euros même pas les livres, donc franchement il faut toujours faire un tour là, sur Vinted, il y a pas mal de pépites.
Alors c'est un peu, mais plutôt pour les livres connus, récurrents, ou etc.
Connus, oui, mais un peu oubliés, les connus oubliés, genre ceux d'il y a 10 ans.
Ouais, c'est ça, mais parce que les autres, si c'est trop de niche, c'est pas la peine, et si c'est trop populaire, bah pareil, ça va être beaucoup plus cher que ce que c'est, et parfois dans un mauvais état, donc c'est toujours complexe, quoi.
Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que pour vous, la première et la quatrième de couverture ont un impact quand vous achetez un livre, et à quel point ?
Bah bien sûr, genre moi par exemple typiquement il y a des auteurs que j'ai découvert parce que la couve elle est sympa, donc du coup genre vraiment ça peut vraiment influencer le choix de lecture, je trouve. Certains de mes auteurs préférés sont des gens que j'ai découvert grâce à leur première de couverture.
Je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, ça passe d'abord par un peu le coup de cœur du visuel. Là, je vais voir ce livre, je vais faire « Waouh !» J'ai envie de voir c'est quoi la quatrième de couverture. Comme ça, du coup, que je vais dans un premier temps vers un livre. Ensuite, un livre moche. Perso, je le lirai jamais en public, du coup. Il y a énormément sur TikTok, sur les réseaux, des couvertures de livres qui ont tourné. Et jamais je me tournerai vers ces livres, du coup, à cause de ça. Où il y en a des super connus, même, où leurs couvertures ont été refaites dues à ça. Par exemple... alors c'est le nom en français, c'est Ne me touche pas. Alors c'est trop bizarre dit comme ça, mais le nom en anglais est plus stylé. En fait, la couverture était tellement moche et il a tellement repris en popularité cette année qu'ils ont refait la couverture parce que vraiment les gens ne voulaient pas le lire à cause de ça.
C'est pareil et c'est plus connu pour le coup. C'est Harry Potter où la couverture a changé du tout au tout. Et les premières couvertures, elles sont pas folles.
Elles sont cheap. Mais après ça c'est aussi, moi pour le coup, ça m'arrive de choisir des éditions en fonction de la patte artistique qu'ils donnent. Pour le coup, il suffit seulement de voir par exemple toute la série des David Gummel, en fonction de quelle édition s'en occupe, bah franchement c'est pas pareil. Moi pour le coup je prends toujours les Bragelonne parce qu'en général les Bragelonne sont de beaux livres avec une belle couverture, sobre mais en même temps avec un vrai caractère, donc c'est super cool. Là où quand tu vois par exemple d'autres, tous les livres type SF en petit, je sais pas si vous avez déjà vu ces formats de poche grisés avec plein de couleurs ultra flashy, je me souviens plus du coup comment s'appelle cet éditeur là, mais
ça me dit rien du tout.
C'est vraiment à regarder, c'est pas très agréable, mais pourtant c'est le même contenu. Hein. C'est incroyable comment ça change tout des fois d'avoir juste un livre beau et un livre moche, ça a l'attrait différent. Quoi. C'est, quand je parlais des éditions moches, c'était les pockets type fantasy ou SF. Je sais pas si vous avez déjà vu les pockets.
Jamais, mais c'est très moche.
Mais oui. Les pockets, c'était vraiment moche. Mais qu'est-ce que c'était trop
bien.
Ils
ont changé les pockets.
Mais heureusement qu'ils ont changé parce que franchement, les pockets à l'époque, c'était dans les années 80, 90.
T'as
franchement,
bien connu ça,
ouf,
toi.
Mais non, franchement, c'était quelque chose. Hein. Waouh, c'était ignoble. Mais bon, ça fait quand même. Ça fait partie du mythe, quoi.
Et ce qui est hyper intéressant, je trouve, maintenant, avec la lecture, etc., aujourd'hui, c'est que tout passe par le visuel. On le voit beaucoup avec TikTok, d'ailleurs. Et puis, les nouvelles maisons d'édition, je prends l'exemple de. Bah, par exemple, du coup, de Saxus. Enfin, il y en a plein d'autres, etc. Mais il y a beaucoup de maisons d'édition qui émergent ces derniers temps et justement où tout passe par le visuel. Ils refont des couvertures ou en tout cas, tout passe par le visuel dans sur leur compte Instagram, sur leur TikTok. Et donc, je trouve ça hyper intéressant à quel point maintenant tout se fait par le beau, tout se fait par la première page de couverture.
C'est un peu triste, mais c'est vrai. Moi, il y a des livres que j'ai pas lus alors qu'on m'a dit « mais si, c'est génial tout ça ». Justement parce que j'aimais pas du tout la première de couverture et que ça m'a un peu trigger. C'est là aussi où la première de couverture, pour moi, est tellement plus intéressante, a tellement plus d'importance que la quatrième de couverture.
Bah après, c'est vrai que la première de couverture, le truc, c'est qu'elle va t'attirer vers un livre, mais la quatrième, elle va te faire le choisir, entre guillemets. C'est-à-dire que du coup, tu vas voir la première de couverture, tu vas te dire « Ah bah tiens, ça peut être sympa ». Du coup, tu vas aller lire le résumé sur la quatrième de couverture. Sauf que là, du coup, ça touche l'importance d'un bon résumé. C'est-à-dire que si le résumé est nul à chier, soit qu'il n'y a pas assez d'informations, soit qu'il y en a trop, bah du coup, genre, tu vas pas y aller, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ça.
Les deux, en fait, sont complémentaires, selon moi.
Après, pour la quatrième de couverture, alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je trouve que, déjà, je trouve que les quatrièmes de couverture, elles sont de moins en moins. Il y en a de moins en moins. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de livres qui résumaient leur histoire à deux lignes. Parce qu'il y a ce truc aussi, je trouve, en tout cas pour moi, c'est ça mon avis, que les réseaux sociaux ont un peu remplacé cette quatrième de couverture.
Et puis voilà. La peur du spoil aussi. Tout le monde a tellement peur de se faire spoiler que clairement, les maisons d'édition se mettent à ne plus quasiment rien mettre dans la quatrième de couverture parce qu'ils ont peur que les gens aient l'impression d'être spoilés et ne viennent pas lire leurs livres. Alors que le spoil, c'est quand même, ça peut être bien, ça peut être important. Je vous renvoie à une de nos anciennes émissions dans un podcast où on parlait de ça d'ailleurs. C'était très intéressant.
Et maintenant, bonne chance pour chercher l'émission et regarder tous les podcasts.
Indice, c'était l'année dernière.
Bon super. Courage.
Moi, ce qui importe aussi énormément quand je choisis un livre, c'est le grain du papier. Il y a des livres où extrêmement dur de les lire.
Ah, je suis tellement d'accord.
Le grain et même l'odeur. Pour moi, l'odeur du papier, en fonction de l'odeur du papier, ça joue aussi énormément au plaisir que j'aurai à le lire. Mais le grain, l'épaisseur aussi, parce que je me suis retrouvé avec un Moorcock. Je kiffe Michael Moorcock. Et je me suis retrouvé avec l'un des plus beaux de ses plus belles éditions, la compilation de tout son cycle d'Elric des Dragons compilé. C'était un machin, un énorme pavé, mais avec un papier tellement fin pour pouvoir tout faire tenir dedans. Enfin, franchement, le papier, c'était des feuilles de cigarette. C'était indécent. Le moins, tourner la page, je pouvais la déchirer. C'était genre, j'étais, mais pourquoi, les gars? Pourquoi?
Et il y a justement un truc par rapport à l'épaisseur des papiers. Les livres publiés depuis quelques années et maintenant ont des pages beaucoup plus épaisses pour un côté économique. C'est-à-dire qu'ils rendent le livre beaucoup plus épais pour justement, en fait, c'est une question juste de gagner le plus d'argent possible, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a une différence avec les anciens livres qui sont beaucoup plus fins aux nouveaux livres où justement ils font croire qu'ils sont longs à lire alors que pas du tout.
Ouais, ça dépend desquels, mais oui, il y en a qui l'épaississent pour justifier le prix, il y en a qui au contraire vont essayer de faire tout rentrer dans un livre, etc. Donc voilà.
Dans le grain du papier, t'as du coup, on parlait des papiers très fins qui font en fait des fois dictionnaires vraiment. Moi j'ai eu ça avec Le Seigneur des Anneaux où ils ont tout fait tenir dans un seul livre. La couverture a été niquée, on voit plus du tout le titre. À chaque fois, j'avais peur de casser les pages, de les déchirer. T'as un côté un peu comme ça et c'est désagréable et c'est des gros livres donc c'est long.
C'est surtout un autre truc, on parlait du grain du papier, on parlait de l'épaisseur, on parlait de l'odeur, mais aussi quand ils sont cirés, je ne supporte pas ça les livres. Je sais pas pourquoi, il y en a quelques rares livres, type roman et autres, qui font ça, mais franchement, mais au secours, mais brûlez vos éditeurs, enfin il y a quelque chose qui va pas les enfants.
Puis je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, on appelle ça des papiers qui sont traités et c'est plus cher à faire que les autres. Pour finir sur ce truc du choix du livre, tout ça, moi je regarde aussi énormément la police dans le livre et je trouve ça tellement important. T'as des polices qui sont beaucoup plus dures à lire que d'autres et surtout, c'est le cas pour les anciens livres, des fois c'est écrit en minuscules et c'est infernal.
Je suis d'accord, personnellement j'ai trop du mal à me concentrer quand c'est écrit trop petit. Ouais. C'est aussi dû que, bah justement encore une fois, c'est un côté économique, plus t'écris gros, plus du coup ça fait de pages, donc plus le livre paraît épais et long à lire. Donc il y a toujours ce côté capitaliste, mais en fait, je crois que je suis trop habituée à ça, le fait que ça soit gros, et je préfère du coup.
Bah, il y a ça, il y a aussi la manière dont c'est écrit, c'est-à-dire que si c'est que des gros paragraphes, franchement, ça démotive de fou.
Non, mais il y a tout, et même l'interligne, ça joue aussi.
Ouais.
Comment c'est tassé, parce que pour suivre les lignes, quand c'est bien trop tassé, des fois c'est un peu plus compliqué, etc. Donc, ouais, mais l'éditeur, c'est un métier, hein, c'est pas pour rien, ça a un sens, ça a une logique, et tu as, en fonction de la thématique, etc., tu as des interlignes plus épais, tu as des caractères plus épais, etc. Enfin, voilà quoi.
Ok tout le monde, donc là on va passer à la deuxième partie qui est un peu plus sur le fond et un peu plus perso. J'ai bien envie de commencer par les livres que vous avez envie d'acheter en ce moment.
Personnellement, en ce moment, j'ai extrêmement envie de lire, enfin d'acheter La Servante écarlate. Alors, c'est dû au contexte politique actuel. Je l'ai emprunté à la bibliothèque de la fac, mais du coup, je vais pas pouvoir le garder après janvier. Donc, j'aimerais bien l'acheter parce que je trouve que c'est vraiment le livre que je veux lire depuis 2-3 ans et que j'ai toujours pas sauté le pas.
Pareil, La Servante écarlate me donne tellement envie et pour l'instant j'ai pas pris le temps de l'acheter et pas mis l'argent pour aussi.
Et en fait il est très lourd comme livre psychologiquement, donc c'est dur de sauter le pas je trouve. Enfin personnellement moi il me stresse ce livre.
Oui je sais que je dois me mettre dans un mood un peu joyeux pour contrebalancer. Et P.A. Roux, est-ce que vous avez des livres dans votre liste d'achat?
Moi, j'en ai plein, genre tous les livres habituels que j'ai envie d'avoir pour compléter ma collection. Il y a plein de livres de Gummel que je voudrais m'acheter. Les Tolkien, j'aimerais bien me les avoir en physique parce que je les ai empruntés. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Maintenant, le livre du moment est celui que j'ai vraiment envie de lire, que j'ai envie d'avoir pour lire la suite. C'est Tim et West, là, j'avoue que j'ai envie. Alors, c'est rien à voir, c'est totalement inconnu du grand public, mais c'est un petit livre de romance qui est vraiment très très sympa. Et j'ai lu le 1, franchement, un banger. Il y a le 2 qui est sorti il y a un peu moins d'un an et j'avoue que ça commence à être difficile d'attendre. J'ai très envie d'avoir la suite.
Moi, le dernier livre que j'ai vraiment envie d'acheter, c'est Le Portrait de Dorian Gray, où vraiment, j'en entends beaucoup parler. J'ai l'impression que je vais bien aimer la vibe.
Ouais, pareil, je suis assez d'accord. Il m'intrigue beaucoup ce livre et je trouve l'histoire assez originale. Donc du coup, j'ai hâte de le lire. Mais surtout, là, pour l'instant, j'ai un livre qui est sur ma bibliothèque que j'ai déjà acheté, mais que j'ai pas encore commencé. C'est le premier livre de Joël Dicker, qui est le dernier que je dois lire. C'est Les Derniers Jours de nos Pères. Donc voilà, j'aime beaucoup cet auteur.
J'en ai pas du tout entendu parler, pour le coup, de cet auteur, ça me dit rien.
C'est un auteur vraiment actuel, contemporain, qui fait beaucoup des romans policiers, et c'est beaucoup de la littérature très populaire, c'est un peu la vibe Guillaume Musso et tout. Mais celui-là, c'est le seul que je tolère, donc voilà.
Après avoir dit ce qu'on a envie d'acheter, j'aimerais partir sur les livres qu'on a regrettés ou abandonnés.
J'en ai tellement, je vous jure. Là, je vais vous faire une liste. Alors déjà, je pense que ça, c'est mes plus gros regrets. Parce que en fait, je les avais achetés avec mon ancienne colocataire. Elle m'avait dit qu'ils étaient bien, enfin qu'elle avait envie de les lire. Et du coup, on les a achetés toutes les deux en même temps avec le Pass Culture. Mais en fait, on a acheté les trois en même temps. C'est Hadès et Perséphone. Alors, c'est très connu sur le BookTok, etc. Mais je tiens à vous dire, c'est super nul. Moi, je m'attendais à une romance, mais surtout très sur la mythologie. Bah non, c'est vraiment que du cul. Donc, je me suis fait chier. J'ai jamais lu les trois, j'en ai lu deux quand même. Vraiment, je me félicite. Et j'ai jamais lu le dernier et il est toujours là dans ma bibliothèque, mais je le lirai jamais.
Moi, j'ai lu le premier et j'ai été vachement déçue par un peu la cohérence de la chose. Quand elle passe un pacte au début, pour moi, elle l'a pas passé de pacte. Le gars, il lui a juste dit « à moi », c'est tout. Il m'a fait un peu chier quand même.
Il y a aucune cohérence. Le personnage principal, je l'aime pas. J'ai pas du tout aimé son personnage, j'aime pas le mec non plus, j'aime aucun des personnages. Je les aime pas. J'ai trouvé ça trop nul, c'est horrible, vraiment je suis désolée. Hein.
Oui, désolée à tous ceux qui l'ont aimé, qui écoutent ce podcast, mais ouais, nous on n'était pas trop dans cette vibe-là. Ouais. Et je m'attendais vraiment à un truc très mythologique dans la vie réelle, et je me dis, il y a tellement de trucs à faire.
Je suis tellement d'accord.
Et on passe si vite dessus sur les sociétés qu'ont créées, ouais, les dieux ou des choses comme ça.
Et il y a un autre style de livre, du coup, en plus de... qui n'est pas la même autrice, c'est Witch and God. Il y en a d'autres de cette même autrice sur justement la mythologie, où ça, je trouve ça déjà mieux. C'est aussi une histoire de dieu, etc. Mais c'est vraiment mieux, je trouve, déjà, par rapport à Hadès et Perséphone. Ensuite, des livres que j'ai jamais finis. Alors celui-là, je regrette de ne pas l'avoir fini, mais je crois que je l'ai commencé pas au bon moment, j'avais pas assez le temps pour le lire. Et pourtant, ce livre est incroyable. Enfin, c'est le Priori de l'Oranger, donc le livre est magnifique. C'est très long, du coup, il y a beaucoup de personnages, mais c'est super bien écrit. Si je me trompe pas, c'était un point de vue omniscient ou externe, je crois. C'est les deux principaux que j'ai jamais continué. Après, il y en a un autre, c'est Shade of Magic, de la même autrice que pour notre premier épisode, La Vie Invisible d'Adila Rue. Et je l'ai pas fini parce que, pareil, je crois que c'était pas du tout le même mood que La Vie Invisible d'Adila Rue, et j'étais juste pas dans le mood pour lire ça à ce moment-là.
Puis des fois, tu peux être un peu déçu quand tu tombes sur un livre que t'adores et tu t'attends à ce que l'autrice ait fait que des livres comme ça, et en fait, non.
Ouais. En fait, c'est un livre, Shade of Magic, qui est super, mais je pense qu'il était plus adapté à la moi d'il y a 3-4 ans. Après, j'ai une panne de lecture depuis plusieurs mois aussi, donc ça joue beaucoup.
Moi, je vais mettre beaucoup de mondes à dos, mais le livre que j'ai vraiment regretté d'avoir lu, et pourtant, c'est plus une nouvelle, et je l'ai vraiment lu en entier, c'est La Métamorphose de Kafka. En soi, il est bien, mais c'est juste pas du tout ma vibe, et je pense que Kafka, j'aime pas trop. J'aime bien les romans un peu sombres, tout ça, mais là, c'était dérangeant et ça finissait sur une note que j'ai pas du tout aimée. Pour moi, genre, c'était pas fini, j'avais l'impression que l'histoire n'avait pas lieu d'être, n'avait aucun sens, dans le sens où la fin apportait une morale qui me plaisait pas et qui ne donnait pas un point final à l'œuvre. PA, où vous avez des livres que vous regrettez, que vous avez abandonnés, tout ça?
Alors, moi, j'ai un livre, bah, pas que j'ai regretté, parce que c'était un cadeau, donc du coup, voilà, j'ai pas perdu grand-chose, mais que j'ai commencé à lire, que j'ai pas pu finir, c'est La Part de l'Autre, d'Eric Emmanuel Schmitt. Et du coup, en fait, c'est juste un récit de qu'est-ce qui se serait passé si notre très cher Adolf Hitler avait réussi les Beaux-Arts. Donc, c'est un livre qui est vraiment extrêmement troublant. Moi, perso, il m'a mis mal à l'aise. Après, peut-être, je l'ai pas abordé de la meilleure des manières, en sachant que j'avais beaucoup d'a priori, du coup, forcément, puisqu'on connaît un peu le personnage. Et je trouve que la manière dont Eric Emmanuel Schmitt écrit, c'est vraiment confusant. Et tu te perds facilement dans l'histoire parce qu'il joue du coup sur d'un côté la réalité et de l'autre son récit alternatif. Donc du coup voilà, j'ai pas du tout aimé.
Moi dans la même veine, et je sais que c'est un livre qui pourra me plaire, mais en fait les premières pages j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est Le Maître du Haut Château de Kadic. Et c'est si jamais Hitler avait gagné la guerre, mais ouais...
En même temps Philippe Kadic.
Enfin c'est tellement une écriture qui est un peu archaïque que... J'ai eu énormément de mal et je pense qu'il faudrait que je le reprenne quand j'ai du temps, quand je serai obligée de le continuer.
Ouais, pareil. Après, ce qui m'a dérangé aussi dans ce livre, c'est que, en fait, presque, on donne des raisons à Hitler en fait, de faire ce qu'il a fait. On l'humanise et c'est vraiment pas le but. Et c'est pas ce qu'on cherche dans une lecture, d'humaniser un gars qui a tué des millions de personnes. Donc du coup, vraiment, genre, j'ai pas aimé. Après, pareil, faudrait peut-être que je le recommence parce que j'ai grandi depuis que je l'ai lu, donc ça pourrait être intéressant de le recommencer.
Et après, c'est aussi à savoir quel rapport tu veux avoir avoir aux personnages historiques, etc. Ouais. Après, humanisé ou pas humanisé, bon là, je vais pas rentrer dans le débat historique, même si j'ai pu l'avoir de très très nombreuses fois. Mais les deux ont des avantages et des inconvénients, donc il n'y a pas de vraie réponse à cette question-là.
Oui, c'est ça, mais après, moi, c'est pas vraiment ce que je cherche. Donc,
Ouais, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on a tendance à humaniser, entre guillemets, les méchants et à déshumaniser, entre guillemets, les gentils, à essayer de tirer vers la tendance contraire.
C'est vrai. On le voit d'ailleurs pour le dernier Hunger Games qui est sorti, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je trouve que du coup, ça a permis d'humaniser le méchant.
Bah, parce qu'après, personne n'est tout blanc ou tout noir, il faut dire aussi. Oui, c'est le problème, c'est le surmanichéisme à la Disney qui a été surreprésenté pendant très longtemps. Mais en fait, personne n'est jamais totalement noir ou totalement blanc.
Alors, lui, donc, dans Hunger Games, le mec Snow, là, moi perso, je l'ai détesté du début à la fin. Donc, je comprends pas les gens qui l'ont humanisé. Hein.
Non, mais tu parles dans les films ou dans les livres?
Dans les livres.
Ok, ouais, non, parce que pareil, il y a aussi, c'est la double différence. Ils sont pas écrits pareil dans l'un comme dans l'autre, c'est un peu compliqué. Fin...
Mais ils sont moins développés aussi dans les films. Ils sont
oui,
temps,
mais en même temps, il n'est pas développé du tout de la même façon.
Oui, c'est ça.
Donc clairement, même s'il est moins développé, mais même la façon dont il est développé, c'est totalement différent. Si vous voulez revoir ce point sur Hunger Games, on a fait un voyage des cinéphiles dessus, donc n'hésitez pas, on a parlé et des livres et des
c'est
films.
Vrai.
Donc, voilà.
C'est vrai, il était bien d'ailleurs, écoutez. Le...
donc voilà.
J'adore le fait d'humaniser les personnages. Le seul problème que je trouve, c'est que c'est vraiment à mettre entre des guillemets, mais on fait passer les méchants pour des gentils et les gentils pour des méchants, dans le sens où on oublie le côté horrible des personnes que les autres trouvent horribles, et on oublie le côté bon des personnes que les autres trouvent bon. Ce côté d'inverser à chaque fois la tendance.
Je pense que là-dessus, on fera peut-être une émission à part entière, mais dans un autre contexte, parce que ce débat est ultra intéressant.
Donc, suivez le dernier mot, on fera un épisode là-dessus.
En tout cas, moi de mon côté, les deux derniers livres que j'ai regretté d'avoir achetés, alors c'est un de mes auteurs préférés, mais clairement, La Reine des Faucons et Les Pierres de Pouvoir de David Gemmell, les premiers des deux séries, en fait, j'ai un peu regretté parce que j'étais pas en état et je suis pas encore en état de me replonger dans un autre univers. J'adore David Gemmell pour son cycle de Draenei, qui est vraiment le gros de sa fresque romanesque le plus importante avec les personnages qui s'entremêlent, mais il en a aussi plusieurs autres mondes, plusieurs autres contextes, et me replonger dans un nouvel univers, là, honnêtement, j'ai pas forcément ni la foi, ni la force mentale. Donc c'est les deux derniers livres que j'ai un peu regretté d'avoir acheté. Maintenant, peut-être qu'un jour, je m'y replongerai, je kifferai, donc en vrai, pourquoi pas. Mais après, à part ça, pas tant, parce qu'en général, je le passe très, très, très longtemps avant d'acheter un livre, ou en tout cas, sauf si ça a vraiment un vrai intérêt. Donc en général, je regrette pas trop mes achats, donc là-dessus, c'est cool. Et les trucs que je peux regretter, c'est les trucs qu'on m'offre, mais on me les offre, donc clairement... Voilà quoi. Puis non, sinon j'ai deux autres séries de livres que j'ai un peu regretté, mais c'est plus parce que j'étais sur-hypé quand je les ai achetés, alors qu'ils sont cool, mais ils valaient peut-être pas le prix que j'ai mis dedans, ou en tout cas la hype que j'ai mis dedans. Mais voilà, ça c'est les livres de convention, de toute façon on sait très bien ce que ça donne.
Moi j'ai énormément regretté mes achats de dark romance, tout ça. C'était un peu à la mode et j'ai voulu suivre le fil, mais en fait je trouve que ça me convient pas du tout, et surtout le décalage qu'il y a entre la réalité et la dark romance, ça me dérange un peu.
D'ailleurs,
avec des personnages masculins hyper toxiques qui sont érotisés, comment on peut dire ça,
oui, mais
fantasmés, genre le fantasme autour des bad boys et des mecs toxiques. Je vous propose d'enchaîner sur les livres qu'on a finis récemment, si vous en avez fini récemment. Qui veut commencer ?
Alors, perso, moi, j'ai fini il n'y a pas longtemps un livre que j'avais envie de lire depuis justement longtemps. C'était Le dernier jour de mon père, de Joël Dicker, qui était le seul livre de lui que je n'avais pas encore lu. C'était son premier. Donc voilà, je suis très content de l'avoir fini. En plus, c'était sympa, donc tant mieux.
Et ça parle de quoi ?
En gros, c'est un peu... c'est des espions pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça aborde pas vraiment le parti de juste la guerre, piou-piou, pompon, mort. C'est plutôt tout ce qui se passe autour, notamment la relation avec d'autres espions, les relations qu'on peut créer pendant une aventure comme ça, etc. Donc c'est plus l'aspect social de la guerre plutôt que simplement la guerre, quoi.
La mort.
Exactement.
C'est plus cool comme point de vue quand même, parce que t'as souvent ce truc-là de la guerre...
Complètement.
Bâton-bâton et tout, alors que t'as moins cet aspect social de qu'est-ce qui se passe, tout ça.
Mais en plus, ça coupe vraiment avec ce qu'il a pu écrire par la suite, parce que du coup, je l'ai dit, c'est son premier bouquin. Et ce qu'il va faire ensuite, c'est plus des romans policiers, et là, c'est vraiment pas du tout le cas. Donc du coup, c'était intéressant pour moi de lire ça. Ça m'a permis de découvrir un autre aspect de mon auteur favori.
Alors, de mon côté, je viens de finir House of Marion de J.L. Alors, j'ai eu une big panne de lecture pendant presque toute l'année 2024, et j'ai vraiment fini ce livre au bout de 6 mois. Alors, sur 5 étoiles, je l'aurais noté 3. En soi, l'idée qu'elle a eue, l'autrice, est bien. En fait, on suit l'histoire d'une lycéenne qui, après que sa mère se soit fait attaquer, décide de se réfugier chez sa grand-mère, qui tient en fait tout simplement une académie de magie, on va dire. En gros, cette académie de magie, moi-même, après avoir lu le livre, j'ai pas trop compris le principe même. Mais en gros, c'est ils se spécialisent dans une faculté et ils ont un diadème magique qui apparaît sur leur tête. C'est trop bizarre dit comme ça, mais je sais vraiment pas comment l'expliquer mieux.
C'est Harry Potter de Wish, en fait.
Ouais, enfin, c'est pas de Wish. En soi, l'idée est bien, mais juste, je trouve que c'est très mal expliqué. Et en gros, la particularité de cette fille, c'est qu'elle elle possède une magie interdite et qu'elle doit le cacher à sa grand-mère, qu'elle vient de retrouver, et à tout le monde, parce que sinon, elle va se faire assassiner, tout simplement. Et donc, on va la suivre dans cette nouvelle vie, etc., à la fois en train d'essayer de cacher son pouvoir et de retrouver sa mère. Donc, encore une fois, l'idée de base est super, mais je trouve que ce n'est pas très bien expliqué. Et je dirais qu'il y a un bon plot twist, ça va à la fin, mais c'est tout. Après, il n'y a pas assez de rebondissements, c'est un peu plat, à mon sens. Après, je pense que c'est aussi parce que je l'ai lu vraiment sur une grosse durée. Donc, je pense que mon avis est biaisé par ça aussi.
Mais du coup, tu le mets quand même 3, même si tu n'as pas tout compris.
Oui, parce que j'ai bien aimé la fin. Et je pense que le tome 2 sera pas mal. Donc je lui mets 3 étoiles parce que je suis très gentille souvent, en fait, quand même. En vrai, je pourrais même lui mettre 2 en soi. Mais je trouve que la fin a un peu remonté l'estime que j'avais de ce livre. Et aussi, le livre en lui-même est très joli, d'ailleurs. Donc voilà.
Est-ce que tu vas lire le 2, du coup ?
Oui, parce que j'aime pas laisser des livres en suspense, à part vraiment quand j'en ai détesté. Genre Hadès et Perséphone, voilà, j'en reparle. Mais je pense lire la suite parce que la fin, j'ai bien aimé comment elle est tournée. J'ai bien aimé de voir en fait que plein d'actions sont expliquées à la fin. Donc pour la fin, ouais, je le lirai.
Il y en a que 2 ou il y en a d'autres encore ?
Il y en a que 1. Il vient de sortir en fait cette année, enfin en 2024. Et on n'a pas encore, enfin il n'existe même pas en poche, etc. Vraiment, j'ai acheté le big format. Je pense que je vais attendre un moment avant de pouvoir lire la suite.
Moi, du coup, mon dernier livre, c'est Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est vraiment, genre, le petit bouquin sympa. Genre, vraiment, il est très court et tu suis juste le trajet d'un... Comme un TER, un peu. C'est au Japon et c'est une ligne qu'ils prennent régulièrement. Ils ont pas des métros ou des trams, ils ont ces espèces de trains qui font un peu TER pour leur trajet quotidien. Tu suis ce train et tu passes d'une personne à l'autre. Genre, elles se rencontrent et... Elle crée des liens, tout ça. Donc tu suis tout l'aller. Et au retour, tu retrouves les mêmes personnages, mais qui font d'autres connexions. Ils ne retrouvent pas les mêmes personnes, mais on retrouve, nous, les mêmes personnages. Aoru, tu veux finir sur ce point ?
Eh ben, allons-y. Moi, de mon côté, un peu comme Céleste, j'ai eu un peu une période un peu avide sur la lecture en tant que telle et la lecture de romans de manière plus large. Et j'ai beaucoup plus lu des mangas ces derniers temps, enfin c'est franchement cette dernière année quasiment. Et par exemple le dernier que j'ai pu lire et que j'ai pleinement apprécié, c'était plus Altaïr. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou si vous connaissez.
Non.
Mais en l'occurrence c'est un peu un manga type héroïque fantasy et en même temps pas tant, qui s'inspire d'un contexte géopolitique un peu du bassin méditerranéen sans être un copier-coller, avec des tensions politiques, militaires, stratégiques, tout un monde et toute une géopolitique à part entière et qui était au demeurant plutôt sympa et qui continue à paraître alors qu'il a commencé en 2016-2017. Donc franchement, c'était plutôt sympa, donc toujours cool.
Et après ça, je vous propose de parler des livres que vous êtes en train de lire.
On peut commencer par toi, PA, pour faire le même ordre.
Ok, alors moi du coup, j'ai commencé à lire du coup le Portrait de Dorian Gray, qui est un livre du coup que je voulais lire depuis longtemps. Et j'ai juste commencé, donc pour l'instant je peux pas trop vous en dire, puisque je viens de rentrer, vraiment je l'ai commencé il y a 3 jours. Donc je viens de rentrer dedans, mais pour l'instant ça a l'air pas trop mal. Je dis pas que ça va être le livre de l'année, mais c'est pas trop mal.
Et on va laisser Céleste réenchaîner pour garder le même ordre.
Alors de mon côté, le livre que j'ai commencé il y a quelques jours, c'est « Ces plaisirs violents » de Chloé Gong. Alors Chloé Gong, elle a sorti plein de livres qui se passent notamment en Chine, enfin l'histoire, et j'aime beaucoup ça. Donc là, en fait, cette histoire, c'est tout simplement déjà, c'est un remake de Roméo et Juliette en Chine, enfin à Shanghai, dans les années 20. Donc déjà, rien que ça, moi j'aimais bien un peu l'idée, elle a rendu cette histoire très fantasy, fantastique. On va suivre donc Juliette Kay, qui fait partie d'un gang qui s'appelle Les Écarlates, et dans Shanghai, il y a un autre gang rival qui s'appelle Les Fleurs Blanches. tenu notamment par Roma Montagov, donc son premier amour d'enfance. Ainsi, en fait, il va avoir une maladie qui va ravager Shanghai et l'apparition d'un monstre. Et donc, ils vont devoir, en fait, sortir les armes, s'allier, pour vaincre, du coup, ces menaces, tout en ayant le contexte que leurs familles sont ennemies. Il peut peut-être avoir une petite guerre de gang. Bon, j'aime pas trop le terme gang, parce qu'en soi, c'est pas vraiment forcément celui-là qui est utilisé. Enfin, si, c'est celui-là. Mais c'est pas de la même manière que maintenant. Enfin, là, on est dans les années 20, donc c'est pas pareil.
Mais ça a l'air vraiment bizarre, parce que d'un côté, t'as l'impression que c'est un livre de super-héros. En même temps, c'est de la science-fiction. En même temps, c'est un peu du thriller, je sais pas quoi.
Il y a vraiment... T'as dit fantasy et tout. Ouais, ça, c'est vraiment de tout.
C'est vraiment tout.
C'est, en fait, c'est ça que j'aimais trop avec l'idée. C'est que vraiment, déjà, t'es à Shanghai et t'es dans les années 20. Et moi, j'adore quand il y a de la fantasy, mais à l'époque, dans les années 20.
Le cadre a l'air vraiment stylé. Et puis, ouais.
C'est ça. Et puis, du coup, bah, ça parle dès le début, ça parle un peu de la condition de femme. Et moi, j'aime bien ça. Et aussi, bah, le fait qu'il y ait un monstre et une maladie. Et que du coup, pour l'instant, là où j'en suis, bah, on sait pas trop ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a vraiment une maladie ou est-ce qu'il y a vraiment un monstre? On sait pas trop. Et du coup, allier tout ça et en même temps, du coup, ça reprend l'idée de Roméo et Juliette. Bah, je trouvais ça assez intéressant et ça va pas être mon livre préféré. Mais je sais pas, genre l'histoire me donnait envie en soi. Et ouais, ça mélange trop de trucs différents par contre. Je sais pas comment elle a fait, mais, ouais. Mais on va voir.
Du coup, j'ai peur pour toi que ce soit un peu parfois bancal et qu'il y ait parfois des raccourcis dans le scénario pour pouvoir.
Ouais, t'as un risque que tout se mélange et que ça devienne un peu compliqué ou sans qu'une tête.
Peut-être, bah à voir. C'est la première fois que je lis un livre de cette autrice et enfin les livres de cette autrice à chaque fois me donnaient envie. J'aime beaucoup les illustrations, etc. Et donc bah je voulais commencer par celui-là parce que c'était le moins cher.
Ouais, mais en tout cas, faut faire attention à ce que ça tombe pas dans le fan service ou dans le fan art plus que l'œuvre réelle avec autant de mélange. Peut-être que c'est juste ce qu'elle aime et qu'elle a tout mélangé, mais à voir ce que ça donne en vrai.
En soi, je trouve que le fait que ça soit une réécriture de Roméo et Juliette, je trouve que ça se voit pas tant que ça, juste à la repris des noms un peu similaires. Et il y a une histoire de camps adverses. Mais en soi, je trouve que pour l'instant, ça me choque pas tant que ça.
Après, il y a toujours des inspirations et ça, c'est ça. Logique. Donc voilà, je trouve qu'il y a... ça se voit pas tant.
Ouais, il y a tellement d'histoires de camps adverses comme ça. Alors certes, oui, pareil, il y a aussi cette histoire de famille qui se ressemble beaucoup. Après, moi, j'ai jamais lu Roméo et Juliette. J'ai pas vu de pièce, j'ai juste vu des passages. Donc je peux pas avoir un avis objectif et hyper précis.
En vrai, Roméo et Juliette, c'est plus un symbole que vraiment une reprise de l'œuvre de Shakespeare. Ouais. C'est vraiment devenu ça. T'as plus... Même si tu t'éloignes de l'œuvre, on va parler de Roméo et Juliette.
C'est un archétype en soi.
C'est ça.
C'est devenu... C'est un peu le principe du monomythe aussi, mais bon.
Moi, en ce moment, je suis sur L'énigme de Turnglass de Gareth Rubin. C'est un livre un peu concept où t'as une histoire au recto et une histoire différente au verso. Et les histoires se rejoignent au centre du livre. C'est un peu particulier parce que pour lire le livre, tu le retournes comme un sablier. Tu lis la première histoire, tu retournes le livre, tu lis la deuxième et tu comprends la première.
Ton histoire me hype tellement, tu m'en avais déjà parlé, mais j'adore le principe de sablier comme ça. Ça rend le livre tellement unique.
Pour l'instant, l'histoire, j'ai commencé tout ça et c'est très énigmatique. T'as plein de trucs en suspens, t'as plein de fils qui sont tendus.
C'est comme si tout était dit à demi-mot.
Voilà, c'est ça. T'as tout qui est dit à demi-mot et tu sais pas dans quoi ça va partir, qu'est-ce qui va se relier, mais tu sais que tout va finir par se connecter et c'est ça qui est pas intéressant.
Et c'est quoi l'histoire en soi ?
Pour l'instant, tu suis l'histoire d'un médecin qui doit partir soigner un membre éloigné de sa famille dans un coin hyper reculé, dans un manoir qui s'appelle Turnglass du coup. Le parent éloigné, on sait pas vraiment sa maladie, on sait pas ce qu'il a. T'as sa belle-sœur qui a tué son mari et genre elle est enfermée là et t'as plein de trucs qui sont what the fuck. Et t'es là, t'es en mode ok, à quel moment ça va se rejoindre tout ça. Et je suis juste à une partie où il trouve un espèce de livre qui, je pense, connecte à l'histoire du verso. Et je sais pas où ça va et j'ai trop hâte de le savoir. Ah, au rouge, on te laisse donc terminer.
Moi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Parce que moi, là, je me suis un peu remotivé. J'en ai deux en même temps. Le Château des Nuages de Diana Wynne Jones, qu'il fallait que je lise depuis très, très, très longtemps. Et qui, franchement, pour l'instant, est assez intéressant et assez... franchement, plutôt cool dans son style. Ça reste toujours très léger, très simple. C'est du pur Diana Wynne Jones. Mais en même temps, il y a un petit côté un peu Mille et Nuits, Aladdin et tout derrière en sous-jacent. Donc, j'ai envie de voir où est-ce que ça mène. Et de l'autre côté, en lecture un peu plus sérieuse, un peu plus forte, je suis sur Wallander 2 de David Gummel. Et où c'est un autre univers totalement. Enfin, on est toujours dans l'univers de Draenei du grand maître David Gummel. de l'héroïque fantasy un peu plus sombre, un peu plus dark, mais toujours aussi agréable. Franchement, non, je vous recommande les deux de manière très différente, mais qui sont tous les deux très bien.
Pour enchaîner, je vous propose de parler des livres que vous avez envie de lire, que vous avez dans votre pile à lire, dans votre bibliothèque, tout ça, et qui sont dans vos priorités.
PA, tu commences.
Allez, je commence pour changer. Alors, moi, j'en ai quatre qui sont mes priorités de deux auteurs différents, comme quoi je fais dans l'original. D'abord, il y a Jonas Jonasson, Jonas Jonasson, je ne sais pas comment on dit, c'est un Suédois, il ne se vexera pas. Mais il y a L'assassin qui rêvait d'une place au paradis et L'analphabète qui savait compter. Ces deux livres qui sont drôles par leur titre et du coup ça correspond bien aux personnages qu'ils créent à chaque fois parce que vraiment c'est des histoires qui ne tiennent sur le papier, ça tient pas debout en fait. Mais en fait, tu lis l'histoire et en fait tu te rends compte que bah, finalement ça marche. Mais tu sais pas trop où ça va quand tu pars. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. En plus, il arrive vraiment à transmettre le comique sur un livre. Et je trouve que ça, c'est très fort. Parce que pour faire du comique sans images, il faut vraiment être le meilleur du monde. Et il y a aussi Qui se souvient de David Fuenkinos, et également Le mystère Henri Pic, qu'il a écrit, qui a été adapté à la télévision. Qui sont pareils, deux livres d'un auteur que j'aime beaucoup. J'en ai pas lu beaucoup de lui pour l'instant. J'en ai lu, je sais plus, 3-4. Mais du coup, j'aimerais bien me plonger encore plus dans sa bibliographie et puis découvrir un peu plus son univers. C'est très particulier comment il écrit, je trouve. Mais pareil, ça marche. En vrai, ça me saoule, mais j'aime bien quand même. Je suis un peu maso sur les bords.
C'est particulier comme envie quand même.
Mais parce que en fait, c'est à chaque fois, c'est des chapitres qui sont extrêmement courts. Donc, t'as l'impression qu'il speedrun son propre livre, quoi.
Il fait une synthèse de son propre bouquin. C'est ça. Il en a déjà marre.
Ouais, c'est ça. Il l'a écrit, il fait 1000 pages et il donne le résumé aux gens.
Nice. Alors moi, j'ai 3 livres que j'ai extrêmement envie de lire actuellement. En gros, chaque livre est vraiment très différent culturellement. En fait, déjà, l'origine des 3 auteurs est très différente. Déjà, il y a Chasseur de flammes de Hafsa Faisal. Désolée si je le prononce mal. C'est une autrice d'origine sri lankaise et elle met énormément en avant la culture arabe dans son livre et ça m'a vraiment donné envie. La couverture est magnifique, l'idée de l'histoire est super. Il y a Babel de R.F. Kuang. Alors, elle est déjà extrêmement connue, cette autrice, pour La guerre de pavots. Et là, Babel, je vais essayer d'en parler un peu plus. En gros, on va suivre un jeune étudiant, on va dire, qui a été adopté et qui va se retrouver dans une école. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai plus exactement le scénario, le synopsis de tête, mais du coup, dans Babel. Et en fait, on va beaucoup dedans se poser des questions sur la colonisation, etc. Et notamment en Asie. Et ça m'a vraiment extrêmement donné envie parce que ça dénonce du coup la colonisation. Et enfin, il y a Absolu de Margot Dessen. Donc elle, c'est une autrice française, donc je trouvais ça très cool d'en parler. Son livre, c'est de la fantasy pure, vraiment un autre univers, etc. Avec pareil, une histoire de monstre, hein, j'aime bien ça en ce moment. Je l'ai eu à Noël et c'était un livre que je voulais acheter depuis un moment parce que pareil, il est très très beau et je lis très rarement de livres d'auteurs français. Et en plus de ça, c'est une romance gay, donc je vous conseille dedans. Et voilà.
Ok, et bah moi du coup, j'ai aussi Babel. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied.
Ouais.
Babel de R.F. Kuang. Mais sinon, j'en ai 2 autres. Alors, c'est des livres qu'en soi, j'ai commencé, mais il faut vraiment que je les reprenne. C'est des longs livres ou grosses sagas. C'est La Horde du Contrevent de Damasio. Damasio qui a une écriture incroyable, mais tellement complexe que j'ai dû arrêter son livre parce que j'étais trop jeune. Et j'ai trop hâte de le reprendre et de voir comment j'ai évolué et comment je le comprends maintenant. Et ensuite, c'est, je pense, pour l'instant, mon livre préféré, c'est L'Assassin Royal de Hobbes, qui est une saga de livres qu'il faut que je reprenne parce qu'elle est incroyable et que ça a beau être très très long, ça te tient toujours en haleine. Enfin, moi, je m'ennuie pas. Alors que sur les longues sagas, il y a toujours un moment où il y a un coup de mou et où on se dit est-ce que je le lâche là? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer maintenant? Et on laisse du temps. Là, j'ai laissé trop de temps, j'en ai marre, je veux le reprendre. Donc voilà.
Bien dit.
Et moi, pour finir, alors pour changer, j'en ai 2, voire 3 en héroïque dark fantasy dans mes envies, parce que c'est vraiment un truc que j'aime énormément. Je parle notamment de La Légende de Marche-Mort de David Gemmell, qu'il faut définitivement que je finisse la suite. Alors certes, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup et que je commence à fortement découvrir, donc c'est cool. Sinon, il y a aussi Le Cycle d'Elric de Michael Moorcock, que j'avais commencé à lire étant plus jeune, dont j'avais fini le premier tome, mais que j'avais pas fini de boucler, que j'aimerais bien reprendre et enfin finir pour me faire une idée dessus. Et petit clin d'œil quand même à Céleste, aussi j'ai envie de lire la suite de Tim et Wes, le 2, qui est aussi une romance gay et qui était vraiment très. Le roman, enfin le premier était vraiment très très cool. Et Ma Bétiste, l'autrice, écrit excessivement bien et file très très bien ses histoires, donc franchement ça c'est super cool et ça se lit vraiment tout seul, donc c'est super sympa à lire. Et enfin revoir un peu les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe, que j'ai acheté l'intégralité et j'ai toujours pas réussi à me mettre dedans, alors que franchement c'est des œuvres d'art à part entière, ces livres, ils sont tellement bien dessinés, beaux, etc. Franchement c'est sublime, et en plus avec l'univers et l'œuvre de Lovecraft, ça peut être qu'un énorme banger.
On passe finalement à la dernière partie de ce podcast, qui est nos livres préférés. Qui veut commencer ?
Bon bah écoute, on change pas une équipe qui gagne. Je sais pas si c'est mon livre préféré, le top 1 de tout, mais en tout cas c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est En attendant Beaujangle de Olivier Bourdeau, que j'ai lu au collège, donc tard à l'époque. Mais il a été adapté en film avec Romain Duris et Virginie Efira. Ça a été très bien fait d'ailleurs. Mais vraiment c'est un livre que je trouve excellent, c'est super bien écrit, l'histoire est bonne. Comment résumer ? En gros, c'est un enfant qui a ses parents qui sont un peu tarés. Enfin, surtout sa mère. Et en fait, l'état de sa mère va se dégrader petit à petit. Son père, il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de l'aider et en même temps élever son fils du mieux possible. Mais c'est vraiment des gens qui sont en marge de la société. Genre, ils déscolarisent leur enfant parce qu'ils comprennent pas le système éducatif, etc. Et à la fin... Bah, je dis pas à la fin.
T'as d'autres livres que tu adores ou...
Bah, il y en a pas d'autres qui me viennent, à part des auteurs que j'ai déjà cités, mais, ouais. Mais sinon, non.
De mon côté, alors déjà, il faut savoir que j'ai eu une grosse, grosse période science-fiction. Mais juste avant, mon livre préféré, ça reste La vie invisible d'Adi Larue, de V.E. Schwab. Mais on en a déjà fait un podcast entier, donc je vais pas en parler plus. Mais sinon, moi, ça reste des classiques, mes livres préférés. Ça va être Divergente, le 1, 2, 3, 4... Les tous, en fait, la saga entière, je les ai tous lus, je les ai dévorés, relus des passages. Donc vraiment, les livres sont mieux que les films et j'ai vraiment une affection particulière pour cette saga. Surtout, le personnage de Triss dans le livre est super intéressant et celui de 4 aussi. Enfin, leur psychologie est super bien construite, donc vraiment, je vous conseille. Et voilà, je pense que c'est ma saga préférée, si je dois en garder qu'une seule. Ah si, et The Mortal Instrument, bien sûr. Donc il y a plusieurs histoires différentes. Ma trilogie préférée, c'est Les Origines. Donc on suit en fait Tessa, qui apprend, après s'être fait kidnapper, qu'elle n'est pas humaine, mais qu'elle est à moitié néphilim et à moitié démon. On va la suivre en fait dans cette quête d'identité, et avec une petite romance, avec justement des personnages qu'on voit dans l'histoire de base qui a été justement adaptée en série et en film, celle avec Clary. Et toi, du coup, Maëlie, c'est quoi justement tes livres préférés ?
Ok, moi j'en ai déjà un peu parlé de L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est du coup plus une saga et qui vraiment a été une révélation pour moi cette année. L'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est vraiment un livre qui m'a tenu et ça a été ma révélation de l'année. C'est dans un univers médiéval un peu fantastique et qui est entouré d'intrigues, de conflits. Les guerres de cour avec tous ces sous-entendus que t'as tout au long du livre, et t'as pas l'impression de lire un livre mais de comprendre une histoire, c'est-à-dire des fois j'ai l'impression de capter plus que ce que l'on veut me donner comme info, de me dire ah s'il réagit comme ça c'est que il va se passer ça et que c'est moi qui ai découvert ça plus que c'est l'auteur qui me l'a fait découvrir. Mon deuxième livre préféré, c'est plus un livre un peu nostalgique, c'est Le Petit Prince. Ça a été mon premier livre et du coup, bah, il est resté dans mon cœur, on va dire.
Enfin, voilà. Le premier amour.
Le premier amour, on l'oublie jamais.
Et ben, moi aussi, je vais rebondir sur ce premier amour, puisque moi aussi, j'ai pas réussi à me décider. J'ai essayé de rester sur deux et ça a été super compliqué. Mon premier amour aussi, moi, c'était plutôt Marco Polo, le premier livre que j'ai lu en tant que tel, vrai gros roman qui m'a vraiment hypé, qui m'a tenu éveillé des jours et des nuits à être sous ma couette avec ma petite lampe torche pour essayer de le lire et pour avancer alors que j'étais censé dormir. Les histoires d'enfants, mais qui sont fortes. Et pour le deuxième, je suis resté sur Le Cycle de l'Héritage de Christopher Paolini. Est-ce que quelqu'un connaît ?
Paolini, c'est quelque chose, mais...
Non, eh ben, je pense que si je vous donne le titre du premier, ça va tout vous dire quelque chose. Eragon.
Ah. Ah oui.
Voilà. Non, mais plus précisément, même si le film est un nanar, il y a un navet absolu, même si il se regarde, hein, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Alors que par contre, le livre est vraiment plutôt bien écrit, même très bien écrit, il se lit très bien, une bonne rythmique, une bonne réflexion. Sachant que l'auteur était adolescent à l'époque quand il a écrit, il a fait un très bon travail. Non, franchement, je ne saurais que trop vous le recommander. Et on a quand même un basique et un classique de l'heroic fantasy moderne, donc c'est toujours cool. Même si, après, évidemment, on a toujours les grands auteurs, à la Tolkien et autres, qui sont un peu toujours dans mon cœur et que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas faire non plus un long épilogue sur ces questions.
Sur ces belles paroles, on est à la fin de notre deuxième podcast du Dernier Mot. Et j'étais avec...
Céleste.
Aourou.
Péa.
Et Maïli. Et on se retrouvera pour un prochain épisode.
Bisous.
La bise.
Et à bientôt.